Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi 8 janvier 2022. Vous êtes bien sûr la radio Nzamba, la Tech Kakawe. Et c'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. Une journée éprouvante pour la commune d'Itélani, au nord du pays, où trois personnes ont trouvé la mort tous vendredi. Un a été décapité sur la colline Rugassa. Les deux autres se sont noyés dans le lac Gweru. Les voyages dans la région de l'EAC des personnes non vaccinées contre le Covid-19 risquent d'être compliqués dans un proche avenir. Un certificat obligatoire de vaccination va être adopté dès lundi prochain. Des journalistes condamnés à perpétuité, d'autres molestés ou interdits de faire leur travail. Le bilan de 2021 pour la presse burundaise est pour le moins négatif. Dans ce journal, vous suivrez Alexandre Niungeko, président de l'UBJ. Mesdames, Messieurs, vous voilà pour les titres. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Vendredi noir en commune Gitérani, province Muyinga, un homme prénommé Ezekiel est mort décapité dans la soirée hier vers 17h sur la colline Rugassa. Dans cette même commune de Gitérani, deux hommes ont trouvé la mort noyée dans le lac Gweru le même jour, Josine Kazé.
Ezekiel, la victime, a été appelé au téléphone par un certain Juvenal Minani qui voudrait échanger avec lui sur un deal qui pouvait leur apporter de l'argent selon une source. Arrivé à la place convenue, Ezekiel a été attaqué et décapité par Juvenal en collaboration avec son frère selon les mêmes sources à Rugassa. Le mobile de cet ignoble assassinat serait dû à une dette d'argent que la victime devait à Minani. Le montant de la dette n'a pas été précisé. Trois personnes, dont Minani, le présumé auteur et son frère, ont été arrêtées, de même que l'épouse de Minani. La police dit qu'elle a arrêté ces trois personnes pour raison d'enquête. Deux autres jeunes gens sont morts noyés dans le lac Gweru, en zone de Masaka, à la mi-journée de vendredi, dans la même commune de Gitélani. Leur pilogue a été renversé par une vague quand ils effectuaient une pêche à la ligne dans les eaux du lac Gweru, selon notre source à Gitélani.
Non à la destruction des champs de bananiers, aux arrestations arbitraires et à toutes les mesures visant à nous contraindre de rentrer. C'est le cri de détresse des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie. Depuis jeudi, ils vivent plus que jamais la peur au ventre à cause des actions menées par des civils chargés de la sécurité du camp sous la supervision de la police tanzanienne. Malgré cela, les réfugiés qui se sont exprimés au micro de la radio Nzamba font savoir qu'ils ne comptent pas fléchir parce que l'insécurité qu'ils ont fui dans leur pays est toujours là. Les détails avec Vanessa Mohiteka.
S'en prendre aux bananiers signifie que demain, ils vont nous tuer.
Ses propos montrent l'extrême désarroi dans lequel se trouvent ces réfugiés. La reprise de ce qu'ils qualifient d'acte de terreur fait craindre le pire.
L'activité de démolir les champs de bananiers et maïs commençait ce jeudi dans la zone 1 et tout, ce samedi s'est arrêté momentanément. Mais nous pensons que ça reprendra la semaine prochaine. Craignons pas plus les champs.
Ces réfugiés font remarquer qu'il y a des preuves que le Burundi n'est pas encore stable, qu'ils ne peuvent donc pas y retourner pour le moment malgré ces menaces.
Ils disent rentrer au pays, rentrer où? Dans un pays où même le président de la République pleure qu'il n'y a pas de justice, rentrer dans un pays où le président, dans ses discours, il dit ouais, il faut qu'il y ait un mouvement armé qui combatte son pouvoir. Au Burundi, il y a encore des disparitions forcées, des enlèvements, des emprisonnements, et en fait, nous ne savons pas où aller.
Et même réfugiés sollicitent l'aide de ACIA pour la recherche d'une solution qui les rassure.
Si la Tanzanie ne nous veut pas sur son sol, il faut négocier avec l'ACIA, il faut nous déplacer vers d'autres pays, vers le Rwanda, vers l'Ouganda, vers le Kenya, et là, les réfugiés sont là, et ils vivent tranquillement. Nous demandons au Racer d'être à notre porte-parole du gouvernement tanzanien.
La radio Nzamba n'est toujours pas parvenue à avoir les réactions du porte-parole du gouvernement tanzanien et du responsable du ACIA en Tanzanie. A précisé que le camp de Nduta compte plus de 60 000 réfugiés burundais.
Merci Vanessa Moïteka. C'est alarmant et surtout inhumain la manière dont le gouvernement tanzanien traite les réfugiés burundais des camps de Douta et Nyarugusu. C'est ce que déplore Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, et lance un cri d'alarme aux organisations internationales et surtout au Haut Commissariat pour les réfugiés, pour assurer leur protection ou pour chercher pour eux un autre pays d'asile. C'est dans un contexte où des réfugiés sont enlevés pendant la nuit, tandis que les champs de culture dans ces camps sont saccagés par la police et l'administration. On écoute Marie-Louise Balichako.
Ce n'est pas une chose nouvelle. Dans la crise que vit le Burundi depuis 2015, les Burundais réfugiés en Tanzanie ont toujours fait l'objet de persécutions et de mauvais traitements. Nous avons toujours élevé la voix et dénoncé ces faits déplorables. Ce qui vient de se passer au camp de Nyarugusu et de Nduta, où les réfugiés n'ont plus le droit d'aller au marché, et leurs champs de bananes, de maïs et de colcas et autres ont été détruits, est un fait inqualifiable dans la culture africaine, surtout que cela s'est produit sous la supervision de la police tanzanienne, ce qui signifie que l'État tanzanien n'est pas étranger à cette opération. Ceci est une violation flagrante du droit international humanitaire. Nous ne pouvons que dénoncer ce genre de comportement qui tranche avec la renommée de la Tanzanie, qui s'est toujours distinguée dans la protection des réfugiés depuis l'époque des luttes pour la libération de l'Afrique. Les réfugiés burundais avaient toujours trouvé havre de paix en Tanzanie lors des crises cycliques qu'a connues le Burundi depuis l'indépendance, à l'exception maintenant de celle de 2015. Il sied de s'interroger sur le mobile de ce changement d'attitude et cela devrait interpeller le HCR, l'Union africaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les Nations unies et même toute la communauté internationale qui ont tous le mandat d'assurer la protection des réfugiés. Le monde ne saurait rester silencieux devant un traitement aussi inhumain infligé à ces réfugiés.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
La suite de ce journal, bientôt un certificat obligatoire de vaccination contre le Covid-19 pour tous les ressortissants des pays de la communauté est-africaine. Son adoption est attendue pour ce lundi 10 janvier 2022. Au cours d'une réunion des ministres des Affaires de l'EAC, des Transports et de la Santé, le secrétaire général de l'EAC, qui a convoqué cette réunion à travers un communiqué de presse publié hier, explique que l'EAC PASS, comme sera appelé le certificat, permettra à ses détenteurs d'effectuer notamment des activités commerciales sur les frontières des pays membres. Joséphine Jones-Munzimana nous fait le point.
Ce certificat vise à harmoniser le système de contrôle de mouvement des citoyens de l'EAC, faire face aux perturbations du trafic frontalier et du commerce à l'intérieur des pays membres. Dans son communiqué de presse, le secrétaire de l'EAC, Dr. Peter Matuki, regrette que les conséquences de la pandémie du Covid-19 aient multiforme, entre autres les impasses commerciales qui réduisent sensiblement les gains réalisés en matière de l'intégration dans l'EAC. C'est pour cela qu'il interpelle les États membres de privilégier une approche régionale dans la gestion de la pandémie du Covid-19, soit le certificat de vaccination dit EAC PASS. Les certificats seront authentifiés numériquement par tous les laboratoires accrédités de la communauté dans le but de renforcer la confiance dans tous les États partenaires. Dans son communiqué de presse, Dr. Matuki souligne également la nécessité d'harmoniser les frais de Covid-19, le temps d'attente pour les résultats des tests effectués pour permettre la continuité des activités, effectuer des tests obligatoires dans les laboratoires désignés dans chaque État partenaire de l'EAC. Il se réjouit par la même occasion que le pilotage d'EAC PASS a commencé en République du Rwanda, en Ouganda et au Burundi et que le Kenya, la Tanzanie et le Sud-Soudan s'apprêtent à finaliser le processus interne pour entamer cette phase. Lors de la 21e réunion du Conseil des ministres de la Santé tenue le 10 décembre 2021, le EAC PASS a été approuvé comme une plateforme régionale de vérification rapide des certificats de test au Covid-19 et du statut vaccinal des voyageurs.
Le secteur des médias a été caractérisé par beaucoup de violations de la liberté de la presse en 2021. L'Union burundaise des journalistes dresse un bilan plus que sombre. 7 journalistes ont été condamnés à perpétuité. D'autres ont été empêchés de travailler jusqu'à être molestés sur le terrain. L'ensemble des journalistes qui essaient de travailler en exil ont été persécutés jusqu'à ce que leurs médias soient interdits d'émettre. Alexandre Niungeko, président de l'UBJ, rappelle que la plus haute autorité de l'État a pris les devants pour persécuter les journalistes par des menaces publiques. Écoutez Alexandre Niungeko.
On se rappellera de la condamnation à perpétuité de 7 confrères, à savoir Innocent Morosi, Bob Rugurika, Madame Anne Niyuhire, Patrick Nduimana, Patrick Mitabaro, Arkad Habyarimana et Gilbert Niyonkuru. Cela a été comme un coup de massue sur la presse, est très condamné à perpétuité pour avoir exercé sa profession. Vous comprenez bien que c'est un coup dur pour la profession. C'est aussi cette année qui s'est manifestée par différentes mesures pour empêcher les journalistes à faire leur métier, les empêcher d'accéder aux sources d'information, censurer les journalistes qui eux-mêmes se sont censurés. Il faudrait aussi ajouter la persécution des journalistes en exil, jusque dans leur exil, en demandant au pays où ils ont trouvé refuge de leur empêcher de faire leur métier. Ça a été une autre atteinte des journalistes jusque dans leur lieu de refuge. On rappellera certaines déclarations des autorités, à savoir le chef de l'État en tête, pour attaquer fermement les journalistes. Evariste Ndayishimiye s'en est pris à Esdras Ndikumana, qui est journaliste à RFI, et à Antoine Kaburahe, et les a accusés publiquement d'être des ennemis de la nation. Ils n'avaient commis aucun crime, si ce n'est celui d'informer le public, de faire leur métier. On se rappellera aussi très récemment, vers la fin de l'année, au cours d'une émission publique, le chef de l'État qui s'en prend à un journaliste parce qu'il pose une question sur la prison de Gitega qui a pris feu. On a vu un chef d'État très en colère qui s'attaque à un journaliste et nous comprenons très bien ce que c'est ce message à un endroit donc de la presse et des journalistes précisément. Donc la presse a été malmenée par les plus hautes autorités. Et vous comprenez très bien que quand le chef donne le ton, il est reçu bien évidemment par différentes autres. Et vous souvenez que pendant l'année 2021, plusieurs journalistes ont été malmenés, ont été battus, ont été arrêtés, empêchés de faire leur métier. Bien évidemment, on se rappellera aussi que l'année 2021 s'en est ajouté aux autres.
L'Union burundaise des journalistes souhaite qu'en 2022, les autorités burundaises se ressaisissent pour rendre propice l'environnement médiatique au Burundi. Alexandre Niungeko demande que le public puisse jouir de sa liberté de consommer l'information comme le prescrit la constitution du Burundi. Suivez-le encore une fois.
Mais on attendrait que cette année 2022 soit différente de celle de 2021 pour que d'abord toutes ces attaques cessent, pour que toutes les lumières sur différentes zones d'ombre, différents assassinats soient levées et que les coupables soient portés devant les juridictions et que justice soit faite. On voudrait bien que l'année 2022 soit une année qui soit plus où les autorités sont conscients du droit du public à l'information et cela, bien évidemment, passe par le fait de ne pas empêcher les journalistes de faire leur métier, donc de permettre l'exercice de la profession de manière libre, mais aussi d'enlever toutes les mesures qui ont été prises pour empêcher le public à suivre certains médias qui sont donc empêchés de diffusion au Burundi, et surtout aussi l'accès à certains sites d'informations qui sont bloquées au Burundi. Mais bien évidemment, tout cela, on espère d'abord qu'il y ait l'instauration d'un état de droit, puisque finalement c'est cela la solution ultime qui permettrait à tous, à toutes les libertés d'être exercées sans embâche.
Inzamba. Football, avant de passer à la partie magazine, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est demain. 24 équipes participent à la 33e CAN qui débute donc ce dimanche au Cameroun. Ces équipes sont réparties dans 6 groupes de 4 équipes chacun. 2 équipes seront qualifiées dans chaque groupe pour disputer ensuite les 8e de finale. La radio Inzamba vous livre une analyse des groupes. Beni Akselakana.
Le premier groupe est composé du Cameroun, du Burkina Faso, de l'Éthiopie et du Cap-Vert. Sauf accident, le Cameroun qui jouera devant son public et qui compte beaucoup de bons joueurs évoluant en Europe a toutes les chances de terminer premier. Parmi les 3 autres équipes, le Burkina Faso possède une petite avance, mais la tâche sera dure pour décrocher la 2e place qualificative pour les 8e de finale. Dans le groupe B, on y trouve Sénégal, Zimbabwe, Malawi et la Guinée. Le Sénégal, avec ses nombreuses stars, a plus de chances de terminer premier du groupe. Entre les 3 autres pays, le combat sera dur, mais la Guinée part favori. Dans le groupe C, constitué du Maroc, du Ghana, des Comores et du Gabon, le Maroc et le Ghana sont favoris, mais il faudra également compter sur le Gabon, surtout que le Ghana n'est plus fort que les années passées. Le groupe D est constitué du Nigeria, de l'Égypte, de la Guinée-Bissau et du Soudan. Le Nigeria et l'Égypte ont une avance sur leurs adversaires. Les 2 autres équipes se cherchent encore et il serait surprenant de les voir battre ces grandes nations du football africain. Dans le groupe E, on y trouve les équipes de l'Algérie, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée équatoriale. L'Algérie, champion d'Afrique qui rêve d'ailleurs de remporter cette 33e édition, est favori du groupe. Il faudra également compter sur la Côte d'Ivoire, habituée de la CAN. Pour ce groupe, la Sierra Leone, qui s'est bien comportée pendant les éliminatoires, peut jouer les troubles faits. Dans le groupe F, on y trouve la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. La Tunisie et le Mali partent favoris, mais il faudra se méfier de la Mauritanie qui se trouve parmi les pays africains actuellement bien organisés. Le Covid-19 qui sévit dans plusieurs équipes qualifiées pour cette 33e édition pourrait affecter certaines équipes et fausser les résultats.
La justice burundaise est-elle compétente pour qualifier le génocide, les crimes commis en 1972? C'est à cette question que le mini-magazine Au cœur de la société va tenter de répondre. À la présentation, c'est Émile Nivasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Après la qualification de génocide par la CVR des crimes qui auraient été commis contre les Hutus en 1972, le président de la République a récemment dit que même la justice burundaise était compétente pour juger de tels crimes. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 8 janvier 2022, nous allons analyser ce que dit la loi évoquée par Évariste Ndayishimiye sur de tels crimes. Vous êtes avec Émile Nivasumba. Dans la conférence publique du 29 décembre dernier, répondant aux journalistes qui lui demandaient s'il ne fallait pas faire recours aux mécanismes internationaux pour qualifier et juger les crimes de génocide tels que prévus par l'accord d'Arusha, le président Évariste Ndayishimiye a dit que la justice burundaise avait la compétence pour se charger des crimes de génocide qui auraient été commis en 1972 au Burundi.
Je ne connais pas cet article qui dit que c'est l'ONU qui doit calculer cela. Vous êtes là, vous faites vos politiques et vous affirmez du n'importe quoi. Le code pénal burundais prévoit des sanctions contre le crime de génocide. Il faut que vous compreniez que la communauté internationale n'est pas un tribunal du Burundi. Les gens se trompent beaucoup. L'ONU, ce n'est pas le gouvernement du Burundi. C'est le gouvernement du Burundi qui sanctionne les crimes commis sur son territoire. Le Burundi est un pays indépendant qui a ses lois. Celui qui les viole doit être puni selon les procédures du Burundi. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Comme vous le savez, autrefois, le crime de génocide n'était pas reconnu et réprimé par le code pénal du Burundi. Mais aujourd'hui, ce crime, le code pénal le réprime. Donc, c'est le Burundi qui saura comment traiter le dossier et non l'ONU.
Mais le juriste Dieudonné Bashirahishize n'est pas du tout d'accord. Il évoque la non-rétroactivité de la loi.
Il y a un principe sacro-saint en droit pénal qui est le principe de la légalité des délits et des peines. Pour sanctionner quelqu'un en raison de ses infractions, il faut que la loi soit inscrite dans la loi répressive au moment où les actes ont été commis. Or, pour ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, il y a une loi de 2003 sur la prévention et la répression des crimes de génocide en son article premier. C'est cette loi-là qui a introduit dans le système interne ces infractions et leur mode de répression. En tenant compte donc de cette date clé, on voit mal comment la justice burundaise pourrait poursuivre sur base de ces accusations, alors que l'introduction n'est intervenue qu'à travers la loi de 2003, qui a été introduite dans le code pénal à partir de 2009. L'article 39 revient sur la non-rétroactivité de la loi pénale, ce qui complique en effet sur le plan légal l'organisation des procès au Burundi.
Si la justice burundaise force et poursuit les présumés auteurs de ces crimes, quelles en seraient les conséquences? C'est l'autre question posée à Maître Dieudonné Bashirahishize par nos confrères de la radio Inzamba et la télévision Renaissance.
On peut forcer tout, il y a toujours des procès qui sont fomentés. Le problème, c'est que ça ne sera jamais perçu comme des procès équitables qui respectent les principes élémentaires en matière de jugement, du respect du droit à la défense. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous vous souviendrez qu'il y a eu des procès en 65, en 69 au Burundi, il y a eu des procès en 72. Est-ce que ces procès étaient équitables? C'est toute la question, c'est toute l'analyse qu'il faut faire. Est-ce qu'on veut rééditer d'autres procès qui auront toujours la marque de procès revanchards, ou bien on veut évoluer et chercher un tribunal international qui pourrait juger réellement après avoir enquêté de façon impartiale dans le but de réconcilier les Burundais. Si le but ultime est réellement la réconciliation, il faudrait qu'on cherche un tribunal neutre qui est par ailleurs le seul matériellement compétent, mais ils peuvent bien forcer, mais ça sera une longue liste d'autres procès qui ne seront pas jugés comme équitables, et ça sera une façon de retarder la véritable réconciliation alors que les Burundais l'attendent de tous leurs vœux.
Les dispositions relatives aux crimes de génocide ont été insérées dans le code pénal de 2009. Ils sont également dans le code pénal de 2017 ou dans ses articles 202, 203, 204 et 205. Ceux qui ont une responsabilité dans les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre encourent entre autres peines la perpétuité. Mais pour les crimes de 1972 évoqués par la Commission Vérité et Réconciliation, vous l'auriez compris, le code pénal burundais de l'époque ne les prévoyait pas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 8 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et comme tous les samedis, terminons par la revue de presse hebdomadaire. C'est avec vous, Georges Nimena.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Commençons cette revue de presse par le domaine de la sécurité, où le journal Iwacu s'interroge sur le démenti catégorique du porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Philbert Biyereke, rejetant les informations données dans les médias locaux et internationaux, ainsi que la société civile congolaise, sur la présence des troupes burundaises en République démocratique du Congo. Interprétant la réponse du colonel Biyereke, le journaliste de l'organe de presse Iwacu, soit après les mots de notre porte-parole des forces armées burundaises, ex-FAB, qui avait répondu de la même manière. C'était du temps de la lutte armée menée par les actuels tenants du pouvoir. Le porte-parole de l'armée d'alors avait lui-même démenti, barriant des revers de l'armée et niant la présence des troupes burundaises à l'est de la République démocratique du Congo. Il avait fallu l'intervention du vice-président de la République de l'époque, Frédéric Bamvuginyumvira, pour reconnaître avec beaucoup de gymnastique et linguistique que les forces armées burundaises étaient bel et bien présentes sur le sol congolais pour combattre les forces négatives de la région. comme le poursuit le journal Iwatch, il n'y avait d'autre choix que de reconnaître cette présence, puisque les hommes envoyés au Congo étaient sans ravitaillement et commençaient à tomber sur le champ d'honneur, loin de leur et de leur mère patrie, puis enterrés sur place en catimini. Ce n'était pas tout. Certains commençaient même à désobéir aux ordres, d'autres à se révolter. Le journaliste de ce quotidien d'information conclut en disant que le travail du journaliste est très difficile, mais il ne mérite pas être porte-parole de l'armée. Dans le domaine de la santé, le journal ABP Info écrit que le Comité national de lutte contre le COVID-19 annonce l'ouverture du port de Mongé. Cela a été annoncé le 5 janvier de cette année par le ministre Sylvie Nzeimana ayant la santé dans ses attributions. Elle a en effet indiqué que le Comité national de lutte contre cette pandémie a analysé la possibilité de l'ouverture de son port pour les voyageurs venant de la RDC et passant par la voie du lac Tanganyika. La ministre Nzeimana a précisé que ce port de Mongé sera ouvert lundi 10 janvier 2022 et que le ministère se prépare pour dépister ses voyageurs, mais aussi que l'administration va avoir la possibilité de trouver l'endroit où seront confinés les voyageurs qui seront testés positifs afin de ne pas contaminer les autres. Parlons économie pour boucler cette revue de presse avec le journal Burundi Echo qui s'étonne et écrit, je cite, « Car les exonérations n'attirent pas les investisseurs étrangers ?» Fin de citation. Il poursuit dans ses colonnes en disant que les exonérations ne sont pas la raison première qui motive les investisseurs étrangers vers un pays donné comme le Burundi. Selon différents économistes, d'autres paramètres interviennent comme l'environnement des affaires, notamment la sécurité, le système d'imposition, la potentialité du marché, l'accès au financement, la disponibilité des infrastructures, de l'eau, de l'énergie, etc. Les entreprises qui veulent s'implanter au Burundi font donc très attention à tous ces facteurs, le fait mentionner le journal Burundi Echo. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Georges Nimenya qui voulait présenter un beau week-end chez vous. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Indamba.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzambagate Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.